BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est les pros des cryptos. Bienvenue à tous, chaque vendredi de 15h à 15h30 en direct et sur notre chaîne YouTube, bien évidemment, BFM Business. Ils sont là, nos talents du vendredi, Owen Simonin à la tête de Meria et Asher, bien sûr. Bonjour Owen, ravi de vous retrouver.
Bonjour.
Il y a un grand suspense, on verra, on saura à la fin des pros des cryptos combien. Combien ? Vous nous direz combien, Owen. Mais Charles Aubert Couturier aussi est avec nous. Bonjour Charles.
Bonjour Guillaume.
Expert digital asset pour KCIS. Ouais, c'est l'hybridation et la finance traditionnelle qui vient s'intéresser désormais aussi aux cryptos. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble des grandes actus de la semaine. Mais d'abord, le potentiel technique, justement. Le Bitcoin, il en est où? 77 420 dollars en ce moment. Vincent est avec nous. Vincent Gann. Bonjour Vincent, ravi de vous retrouver.
Bonjour Guillaume.
Analyste technique indépendant. Ce cours du Bitcoin est à corriger. Il est corrigé depuis la mi-mai, tout en étant toujours en hausse de 15%. Depuis la fin février et le début des opérations en Iran, enfin la guerre en Iran. Quelle est votre lecture technique à court terme pour le Bitcoin?
Ouais, alors Guillaume, vous relevez deux points qui sont intéressants. Premier point, et c'est important à noter puisque ce n'est pas le cas de tous les actifs risqués en bourse, Bitcoin est toujours en hausse depuis la fin du mois de février, 15%. Donc ce n'est pas le cas de tous les actifs risqués. Par contre, effectivement, depuis le milieu du mois de mai, pardon, une correction à court terme s'est mise en place. Alors souvenez-vous, vous m'avez interviewé il y a deux semaines et je vous avais expliqué que cette zone des 82 000, 83 000 dollars était une zone de frontière cyclique. Pourquoi? Je vais être précis, c'est là où passe la moyenne mobile à 200 jours et historiquement, pour Bitcoin, c'est la frontière entre le marché baissier cyclique et les phases de bull run. Donc, c'est une moyenne mobile qui a produit son effet correctif. Bitcoin avait rebondi quand même de 30% depuis ses plus bas début février. C'est pas non plus choquant. Alors maintenant, dans l'immédiat, à très court terme, le marché est dans une compression assez serrée entre 74 000 et 80 000 dollars. Il y a un point de vigilance, c'est-à-dire que depuis environ la mi-mai, vous avez un retour de la domination des positions longues à effet de levier. C'est plutôt le contraire depuis le milieu du mois de février. Donc, si vous voulez, en cassure de support, en cassure de cette zone des 74 000, 75 000 dollars, il y a un risque de liquidation de position longue. Voilà, mais ce serait simplement un mouvement de court terme. J'ai un point, par contre, qui est intéressant et qui est plutôt positif. Mais là, on se projette, on va au-delà du cadre court terme. C'est que depuis février, il y a un bon comportement du marché des alts. Et ça se confirme encore cette semaine, malgré la correction de Bitcoin depuis la zone des 80 000 dollars. Alors, c'est probablement permis par les avancées autour du Clarity Act, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez structurel qui se met en place. Et encore une fois, ça me fait rester très positif après 2026, qui est une année de transition, pour repartir dans une phase haussière sur la suite de la décennie.
Ça, ce serait, oui, la décennie jusqu'en 2030, c'est ça?
Tout à fait, mon cher Guillaume.
Objectif 2028, 2030.
2029, ouais.
Qu'est-ce qui peut faire, alors, fondamentalement, pour le coup, la différence pour Bitcoin en cette fin de mois de mai, là, si on s'en tient à la fin de mois de mai?
Pour rester vraiment dans l'immédiat court terme, ce sont pas les alors, à moins d'une annonce exceptionnelle, mais ce sont pas les fondamentaux liés à l'écosystème crypto qui vont agir à court terme. Je vais parler d'une compression, là, à court terme, entre 75 000 et 80 000 dollars. Le marché va en sortir. Ça, c'est une certitude. Dans quel sens? Écoutez, sans surprise, c'est les fondamentaux d'ordre géopolitique qui vont agir par le mécanisme des corrélations, le prix du pétrole, les indices boursiers, les taux d'intérêt. Donc le marché fera probablement prochainement son choix.
Vincent Gann avec nous, analyste technique indépendant. Merci beaucoup Vincent.
Merci à vous.
Bon week-end. Le CAC 40 est en hausse, mais surtout les cryptos, on les suit de l'intérieur. Le Clarity Act, tiens, on va en parler. La fenêtre se referme sur le Clarity Act. Vous allez voir qu'il y aura des conséquences pour les investisseurs et les acteurs européens. C'est Owen là-dessus qui alerte depuis le début de la semaine sur ses réseaux sociaux, sur LinkedIn. Il va nous détailler les choses dans un instant. On parlera aussi de MiCA. MiCA peut-être déjà révisé pour rester dans la course face aux États-Unis. L'Europe tente une grande révision de sa réglementation sur les cryptos. Alors, bonne nouvelle ou pas d'une révision de MiCA? Est-ce que c'est bien ou est-ce qu'au contraire on doit s'en inquiéter? Nos pros vont répondre. Et puis les crypto-raptes, le plan de bataille du gouvernement. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a parlé d'un plan de bataille. Ce sont ces termes, et ce terme bataille dans la bouche d'un ministre de l'Intérieur, il a un certain sens. Les plateformes crypto commencent, vous allez le voir aussi, à accélérer pour protéger les utilisateurs. C'est votre machine à condenser l'essentiel des pros des cryptos. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec Charles Aubert Couturier, il est avec nous donc aujourd'hui pour KCIS. Bonjour Charles.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Ça y est, on sort les t-shirts, on se détend un petit peu, on arrive bientôt sur la fin de l'année, bientôt
l'été. Exactement. Ouais. Beau temps, retour de la chaleur, du soleil.
Et on l'espère pour les cryptos aussi. La fin de l'hiver crypto, c'est pas l'hiver crypto le plus rude qu'on ait connu, même si.
Non.
Voilà. On a vu pire. Même si c'est dur, pour ceux qui ont acheté au plus haut, c'est difficile, mais on a vu bien pire dans l'histoire.
Oui, oui.
Ouais. Owen, on est avec. Il est en t-shirt lui aussi. Bonjour Owen, même dans le Grand Nord. Bonjour, ravi de vous retrouver.
Bonjour.
Depuis les bureaux de Meria. Alors on va parler justement de ce potentiel des cryptos et leur adoption, qui vont dépendre à l'avenir aux États-Unis aussi du Clarity Act. Si le Clarity Act, Owen, ne passe pas avant juillet, vous dites qu'il faudra attendre 2030 pour trouver une nouvelle fenêtre équivalente. Pourquoi 2030 et pourquoi c'est majeur aussi pour les investisseurs ici en Europe?
Alors, il y a deux points très importants à comprendre. Déjà, ce calendrier, c'est justement la pression du calendrier qui est législatif, dans le sens où entre les mid-term qu'il va y avoir en 2026 et la nouvelle élection présidentielle en 28, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'avant de pouvoir rediscuter ce genre de texte et adopter une loi, ça va mettre 3 à 4 ans avant de pouvoir remettre le fameux Clarity Act sur la table. La deuxième chose à avoir en tête, et qui est beaucoup plus complexe à percevoir pour beaucoup d'investisseurs, c'est que c'est pas simplement quelque chose de nouveau, qui va apporter plus de visibilité et qui va conforter certaines institutions et leur permettre d'investir dans les crypto-monnaies. C'est le cas, mais c'est surtout la remise en cause d'une sécurité que les États-Unis pensaient complètement établie. C'est-à-dire que il y a 2 à 3 ans, sur ce plateau, on parlait chaque semaine du fait que la Security Exchange Commission attaquait certains projets crypto et allait jusqu'à potentiellement remettre en cause le statut d'Ethereum, de l'Ether, ou encore d'XRP, la crypto-monnaie de Ripple, en la considérant comme une potentielle security. Ce fameux sujet qui semble complètement derrière nous, entre la catégorisation des crypto-monnaies entre des security ou des commodities, c'est-à-dire régulées par la SEC, ou régulé par la CFTC, eh bien ça change tout pour une crypto-monnaie. La CFTC demande une régulation qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus permissive pour le projet qui émet la crypto-monnaie, alors que la Security Exchange Commission, si elle considère ça comme un titre, c'est très lourd, ça demande des enregistrements, du temps, énormément de ressources. Eh bien, on a l'impression que c'est derrière nous, mais ça ne l'est pas. L'administration a pris des décisions actuellement et elle a catégorisé ses actifs. La SEC a communiqué. Mais s'il y a une nouvelle élection présidentielle, une nouvelle administration en place, elle pourrait venir interpréter et classifier différemment ses actifs et revenir en arrière en recréant encore une fois un flou, des doutes et en, pourquoi pas, redonnant le pouvoir aux régulateurs d'attaquer certains projets et de les considérer comme ayant émis des titres financiers sans autorisation. Et donc, c'est pas simplement un pas en avant, ce serait également un pas en arrière de devoir attendre 4 ans de plus, sachant qu'en Europe, il y a MiCA, il y a un cadre, donc ça peut être un avantage européen face justement aux Américains, mais tout le monde regarde les États-Unis. Le monde entier regarde ce qui se passe aux États-Unis, et d'ailleurs, on l'a vu avec BlackRock et l'adoption de Wall Street, c'est ça qui booste réellement les crypto-monnaies, et c'est pour ça que cette deadline de 30 à 45 jours pour savoir si le Clarity Act va être voté est suivie dans le monde entier, parce que ça va être justement une confirmation du fait que cette loi est entérinée et que le cadre des crypto-monnaies aux US est clair, définitif, et donc ça va accélérer encore plus les fonds des institutions et leur entrée. À l'inverse, le doute, le flou, notamment pendant 4 ans, va naturellement faire peur aux investisseurs et risque d'affecter le marché crypto.
Oui, et vous dites donc, Owen, ça concernerait aussi, on parle d'une loi américaine, mais aussi les investisseurs et les acteurs européens des cryptos qui seraient aussi éclaboussés.
Tout à fait. Toute annonce qui vient des États-Unis affecte directement le prix des crypto-monnaies. On parle des stablecoins en Europe. La réalité, c'est que 0,5% des stablecoins sont sur l'euro. Tout le reste est sur le dollar. Donc, de manière générale, le marché des crypto-monnaies, les flux entrants, l'adoption des institutions, dès qu'on a une vision très macro, la plupart du temps, ce sont les États-Unis qui viennent battre la mesure. Et le reste du monde suit. Donc cette incertitude et ce retour en arrière sur quelque chose qui semblait acquis sur la classification des différents coins, on peut le dire, eh bien ça viendrait mettre un froid sur tous les marchés.
Oui, le compte à rebours vraiment va pas durer longtemps. Il faudrait que ce soit adopté dans les toutes prochaines semaines. C'est vraiment le baromètre de l'ensemble des cryptos. Comment on dit, vous savez, le métronome, voilà, le métronome. Ouais. En musique, vous faites de la musique, Charles?
Non, malheureusement.
Vous faites pas de la guitare?
Non, j'ai essayé quand j'étais petit, mais ça m'a pas trop réussi.
Je pensais, oui, je sais pas, je vous associe à une guitare. C'est pour ça. Et donc, pour vous aussi, Clarity Act, là, ce qui est en train de se jouer là-bas, c'est très important.
Oui, oui, c'est très important. Et je pense que je le lirai aussi à des discussions qu'il y a eu entre la SEC et des plateformes boursières ou alors des conservateurs, donc la finance traditionnelle, par exemple DTCC, New York Stock Exchange, etc., qui ont vocation à vouloir tokeniser, eux, des titres financiers. Mais en fait, on va se rendre compte que dans les infrastructures, les technologies qu'on va utiliser, c'est peut-être des technologies crypto sur lesquelles on va venir amener des titres financiers traditionnels. Donc en fait, une clarification sur les cryptos va aussi servir le déploiement demain de la finance on-chain et de titres financiers sur ces infrastructures-là. Donc en fait, je suis totalement aligné avec ce que dit Owen, hein, c'est de faire converger ça et de s'assurer entre guillemets, que le Clarity Act passe au plus vite.
Mais alors, apparemment, il y aurait un immense gagnant du Clarity Act, un géant des stablecoins, mais pas le principal géant, Circle. Pourquoi Circle sortirait principal gagnant du Clarity Act?
Ouais, il y a deux géants, finalement, qui sont des émetteurs de stablecoins. Il y a Tether d'un côté et Circle de l'autre. Pour vous donner un ordre de grandeur, Tether, c'est près de 190 milliards sous gestion. Pendant que Circle, c'est autour de 70-80 milliards sous gestion donc de stablecoins qui circulent. C'est vraiment les deux players majeurs. Avec des choix finalement de mise en œuvre et d'usage qui sont assez différents. Tether, lui, est plutôt venu adresser les marchés émergents, d'une certaine manière, en utilisant le dollar comme une forme de réserve de valeur pour ces marchés émergents, donc dans des pays en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, etc., qui veulent éviter l'inflation de monnaie locale en pouvant se dollariser. Pendant que Circle, lui, a eu une stratégie un peu différente et est venu plutôt attaquer le monde institutionnel, que ce soit aux US, que ce soit d'ailleurs en Europe aussi, en voulant concurrencer les rails de paiement existants et des mastodontes comme Swift, pour les nommer. Oui. Et donc, pourquoi il en sort renforcé? C'est que le Clarity Act, bah, non seulement il parle de la partie rendement, est-ce qu'on peut redistribuer le rendement qui est associé au collatéral géré par ces émetteurs-là, mais il parle également de la partie transparence, auditabilité et tous les process, la conformité, etc., etc. Et ça, évidemment, bah, by design, Circle est allé le chercher, notamment en étant coté aux US, par exemple, qui suppose d'être audité, etc. Ce qui fait que bah, ils en sortent renforcés, puisque d'une certaine manière, by design, ils sont déjà dans la voie du Clarity Act dans leur construction.
C'est vraiment important pour tout le monde. Et alors, face aux avancées américaines, l'Europe veut se réveiller. Et sitôt adopté, sitôt réformée, l'Europe tente une révision de MiCA-ON pour rester dans la course. Révision en vue de MiCA, notamment justement sur les stablecoins. Et ça a aussi un impact, on l'imagine, sur les plateformes d'investissement. Vous en dirigez une d'ailleurs, ON, à savoir Meria. Comment vous regardez cette éventuelle révision de MiCA?
Il y a plusieurs façons de le voir venir, mais la première chose à faire, c'est un constat. Le constat, c'est que l'Union européenne a voulu créer un cadre très vite, très tôt, pour encadrer quelque chose qui n'était pas encore complètement mesuré, complètement compris, en pleine évolution et qui était une innovation. Résultat des courses à l'heure où nous parlons, on a un cadre sur les stablecoins et on l'a eu bien avant les États-Unis. Il y a 320 milliards de dollars tokenisés. Il n'y a même pas 1 milliard d'euros tokenisés. Pour plein de raisons. La première raison, c'est que les contraintes d'une entreprise qui veut émettre son euro tokenisé sont beaucoup trop fortes et elle ne va pas pouvoir faire ce qu'elle veut des réserves. Aux États-Unis, vous pouvez par exemple investir sur du bon du trésor américain, financer évidemment les États-Unis et générer du rendement, ce qui rend l'activité d'émission de stablecoin rentable. Ce n'est pas autorisé, en tout cas pas dans les mêmes proportions, quand on émet un stablecoin euro. Et donc, naturellement, c'est moins intéressant de le faire. Il y a beaucoup plus d'obligations, de contraintes qui font que aujourd'hui, l'euro n'est pas compétitif, ou en tout cas, les entreprises qui veulent émettre un stablecoin euro. Mieux encore, la plus grosse entreprise régulée en Europe pour émettre un stablecoin euro, c'est Circle, une entreprise américaine, parce qu'elle a eu les moyens de le faire et parce que globalement, elle a une empreinte qui est suffisamment large pour pouvoir investir sur les marchés européens. En plus de ça, le cadre MiCA a obligé la plupart des plateformes, et la nôtre notamment, à délister l'USDT parce qu'il n'est pas conforme. L'USDT, c'est le stablecoin le plus utilisé au monde. Ce serait un peu comme dire aujourd'hui qu'on interdisait sur toutes les bourses européennes le dollar, parce qu'on estime que le dollar n'est pas conforme avec le système européen. C'est pénalisant pour ce système, parce que c'est le système lui-même qui se prive d'une grosse poche de liquidité. Donc, 18 mois après ce premier cadre, ils viennent de lancer une consultation publique. Je pense qu'il faut être capable de le reconnaître, c'est une bonne chose. Quitte à faire une erreur, autant s'en rendre compte tôt, et autant l'assumer plutôt que de ne pas vouloir revenir sur ce sujet. La consultation prendra fin d'ici fin août, et pour le coup, beaucoup d'acteurs espèrent un assouplissement de ces règles, car même pour les acteurs qui sont régulés, il y a des incertitudes, des interprétations qui font qu'en plus d'être MiCA, pour distribuer un stablecoin, si c'est une monnaie numérique, il faut peut-être devenir établissement de monnaie électronique, donc une nouvelle licence, EME. Bref, ça n'en finit plus, c'est complexe, et surtout, ça n'a pas permis de développer ces volumes, et donc ils veulent revoir le cadre, et je trouve ça plutôt intelligent.
Oui, c'est plutôt un signe de maturité, là, pour le coup, reconnaître qu'on a peut-être été trop loin et pourquoi pas revoir les choses.
Tout à fait. Après, il y a aussi un choix et une stratégie qui est assez claire aux US, c'est de dire, je vais passer via les stablecoins pour une forme de dollarisation dans ce monde blockchain et dans ce monde des actifs numériques. Oui. Alors que nous, on a voulu diversifier les approches en disant, en mettant en fait un peu en face côté européen, les stablecoins en face de l'euro numérique par exemple. Et donc à vouloir pousser une solution par la Banque Centrale Européenne et l'euro numérique à la place du stablecoin, en fait on veut jouer un peu sur tous les tableaux alors que la stratégie est peut-être plus claire aux US.
Alors justement, est-ce que la BCE elle aussi fera amende honorable en quelque sorte sur l'euro numérique? Pour l'instant ça n'a pas l'air de vouloir être le cas, elle préfère toujours l'euro numérique à une stratégie stablecoin, hein, la Banque Centrale Européenne. Mais enfin en France, la CNIL veille au grain et la CNIL prévient, Charles, c'est une des actus fortes de la semaine, la CNIL prévient que l'euro numérique est voué à l'échec s'il n'apporte pas des garanties de confidentialité. Pourquoi un échec, carrément un échec? C'est la CNIL quand même, on n'est pas là sur des agitateurs, hein, on est sur une institution.
Oui, oui, après dans le reste du rapport, il reste assez positif et en soutien du projet, mais en effet, il y a ce point-là qui est clé et je pense qu'il ressort d'ailleurs dans les études qui avaient été faites par la BCE auprès des citoyens, la confidentialité ressortait comme une des priorités les plus importantes pour avoir un euro numérique, surtout si on se met à voir l'euro numérique comme une forme de substitution ou en tout cas de complément au cash. D'une certaine manière, bah, l'un des enjeux du cash aussi, c'est d'avoir cette forme d'anonymat. Donc c'est pour ça que la confidentialité est clé. D'autant plus, là, on voit qu'il y a beaucoup en ce moment de leaks, de hacks, de bases de données, de différents acteurs qui se font avoir. Donc en fait, on peut avoir des interrogations si demain la Banque Centrale ou des banques le font, de s'assurer qu'en tout cas, on puisse pas accéder à l'ensemble des transactions et des soldes des personnes. Donc c'est un point qui reste clé et une feature majeure qui va être demandée par les concitoyens.
C'est les pros, les cryptos, c'est le vendredi à retrouver tout au long du week-end, bien sûr en podcast, en replay, sur notre chaîne YouTube également BFM Business. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous important quand même à la Fed. Nouveau patron de la Fed, Kevin Warsh, il prêtera serment aujourd'hui. Ce sera à 17h à vivre d'ailleurs aussi en direct sur BFM Business dans BFM Bourse depuis la Maison Blanche. C'est très rare qu'un nouveau président de la Fed prête serment depuis la Maison Blanche. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1987. Ça va encore faire parler sur l'indépendance de la Fed et Donald Trump sera bien sûr présent. Ça fera peut-être évoluer, réagir le marché des cryptos, la politique monétaire à venir de ce nouveau patron de la Fed aux États-Unis. Et justement, puisqu'on parle des marchés et de la bourse, quelle entreprise crypto est la plus influente à Wall Street ? Ripple. Ripple, on a le nom, hein. C'est Ripple d'après la chaîne américaine CNBC qui arrive au 16e rang d'une liste de 50 valeurs les plus influentes selon CNBC. Pourquoi Ripple, Owen ?
Eh bien, Ripple, puisque c'est une entreprise qui propose des services cryptographiques, mais à destination des banques et des institutions. Son objectif, très clair, c'est disrupter des systèmes de paiement comme SWIFT, qui demande encore 2 à 5 jours pour réaliser une transaction, et entre 25 à 50 dollars par frais de transaction. L'objectif, c'est tout simplement de reproposer des outils et une infrastructure qui pourront permettre des compensations et des paiements rapides entre ces institutions. C'est encore plus le cas avec la tokenisation qui arrive, car quand on met en place un réseau de paiement blockchain, on peut ensuite faire circuler des stablecoins, certes, mais également tout autre type d'actifs tokenisés. Là, en l'occurrence, Ripple est la seule entreprise du top 50. Hein, c'est un top disrupteur qui est bien connu depuis maintenant, si je ne dis pas de bêtises, une vingtaine d'années et qui est publié par la CNBC. Et en l'occurrence, c'est le seul projet entreprise ou institution crypto, en fonction de comment on la nomme, qui se retrouve dans ce top 50. Et ce qui est également intéressant à notifier, c'est qu'ils étaient déjà présents, mais beaucoup plus bas dans ce classement et qu'ils ont gagné plusieurs places au moment où ils ont eu leur victoire, entre guillemets, partielle, avec la Security Exchange Commission, pour en revenir au début de cette émission, quand ils ont officiellement eu gain de cause en précisant que XRP, leur crypto-monnaie, n'est pas un security token.
Oui, Ripple, effectivement, donc l'entreprise crypto la plus influente à Wall Street et parmi les entreprises les plus influentes de Wall Street. Hein, CNBC, grande chaîne financière américaine, intègre Ripple aux 50 plus grandes entreprises, les plus influentes en tout cas de Wall Street. C'est quand même un événement. Et pendant ce temps, alors Harvard continue de s'arracher un peu les cheveux là. Face aux crypto, Harvard, il y a quelques semaines, on disait Harvard est en train de se lancer dans le Bitcoin et c'est vrai, ils annonçaient un engagement dans le Bitcoin. Et puis là, on apprend qu'au contraire, la plus prestigieuse école du monde, au contraire, allège ses positions en Bitcoin et abandonne l'Ethereum.
Ouais, tout à fait. Je suis pas sûr que ce soit très bien passé sur le trade sur Ethereum si on voit un peu la temporalité entre l'annonce de l'investissement et derrière du désinvestissement. Mais en effet, ils ont liquidé totalement leur position. Je crois qu'en fin d'année dernière, ils avaient pris une position de quelques dizaines de millions d'euros. Faut relativiser, hein, juste pour vous donner un ordre de grandeur. C'est près de 53 milliards qui sont gérés par la fondation Harvard dans le cadre des endowments qu'ils ont. Donc là, on parle d'allocation de quelques dizaines à quelques centaines maximum millions de dollars. Et il y avait une tentative, j'allais dire, de miser sur Ethereum dans une logique de rattrapage du cours de Bitcoin. Ça n'a pas été le cas. Ça a été un investissement malheureux. Et finalement, il reste une petite exposition Bitcoin, mais qui est peut-être moins pondérée que ce qu'elle n'était auparavant. Et on voit que dans leur allocation, ils sont plutôt partis vers l'IA de manière assez classique en ayant des investissements sur les boîtes IA.
Plutôt l'IA, donc. Et alors, qui gagnera le match quand même entre Bitcoin et Ethereum? C'est vrai, pour l'instant, c'est largement Bitcoin, il n'y a pas photo. Mais alors, quand le quantique va arriver, les choses pourraient changer. Citi, la banque Citi, a tranché face au risque quantique. Ethereum serait plus sûr et mieux préparé que Bitcoin, en tout cas aujourd'hui.
Oui, c'est intéressant. En fait, c'est plutôt, ça revient à une question de gouvernance et de structuration de l'actif. C'est-à-dire, ce qui est clé, en fait, dans une blockchain, c'est comment je la gouverne. Qui a le droit d'écrire sur ma blockchain? Qui a le droit de modifier les règles de gestion de ma blockchain? Et qui a le droit de la consulter? Ça, c'est un peu le triptyque le plus important. Et dans cette gouvernance, en fait, le seul moyen de rendre résistant au quantique, d'une certaine manière, à la fois la blockchain Bitcoin et la blockchain Ethereum, c'est de faire des évolutions dans leurs algorithmes de signature, dans la gestion des clés cryptographiques, etc. Et en fait, Ethereum a une roadmap assez claire, a une gouvernance d'une certaine manière assez centralisée qui lui permet d'avoir une vision de quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on va faire d'un point de vue technique, technologique pour faire évoluer et rendre quantum proof d'une certaine manière le protocole. La roadmap, elle va jusqu'à peu près 2029 pour rendre quantum proof. En tout cas, c'est l'ambition que s'est mis Ethereum dessus, avec des premiers jalons qui arrivent dès cette année, hein, sur des évolutions possibles. Du côté de Bitcoin, on voit qu'il y a des premières discussions. Le process de décision est, j'allais dire, encore plus informel et beaucoup plus informel. Et il y a des premiers forums, des premiers BIP, pour les nommer, qui ont été mis sur des forums, qui visent à discuter comment on va le faire, etc., etc. Mais on est encore à plusieurs années d'avoir une implémentation possible, sachant qu'il y a une partie des bitcoins qui sont quand même à risque, hein, parce que ceux qui sont sur des adresses qui sont publiques et accessibles, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui représentent près de 25% aujourd'hui des bitcoins en circulation, demain, s'il n'y a pas d'évolution du protocole, pourrait être à risque. Donc c'est un enjeu assez important en réalité.
Oui, il y en a des enjeux, hein, qui se multiplient, qui convergent, voilà, et même sur le front géopolitique, chaque pays fait avec les cartes qu'il a en main face aux cryptos. L'Iran, par exemple, voilà, on en vient à la guerre en Iran. Téhéran veut servir des cryptos pour, et notamment du Bitcoin, pour assurer les navires qui choisiraient de passer le détroit d'Ormuz. Une assurance maritime adossée au Bitcoin.
Ouais, exactement.
C'est une bonne pub ou pas, ça, pour le Bitcoin?
Je sais pas si c'est une très bonne pub. On en avait déjà entendu parler, en effet, un petit peu de c'est la volonté, en tout cas, des Iraniens de se faire payer en Bitcoin. Maintenant, alors j'ai essayé d'aller sur le site pour être totalement transparent avant l'émission. J'ai pas réussi à accéder au site Ormuz Safe, qui est censé cadrer un petit peu ces demandes ou cette forme de rançon, hein, en réalité, qui est fait au niveau du détroit d'Ormuz.
Complètement.
Mais l'idée, c'est d'institutionnaliser, entre guillemets, pour l'Iran, un peu plus ce péage et ces rançons, en ayant un site avec une adresse dédiée, et d'éviter ou de minimiser les risques de fraude qu'il peut y avoir, puisque évidemment, il y en a qui se mettent un peu dans les interstices pour mettre leurs propres adresses, essayer d'arnaquer des armateurs. Juste pour vous donner une idée de à quel point c'est un peu délirant quand même, cette proposition des Iraniens. Ils visent de réaliser près de 10 milliards par an via cette nouvelle assurance du passage de détroit d'Ormuz. L'assurance maritime dans le monde, c'est un marché qui pèse entre 40 et 50 milliards. Donc ils pensent réaliser près de 25% du marché avec ce type de rançon ou de nouvelles solutions. Je suis pas sûr que ce soit ce qui marche le mieux, en tout cas, et qui fonctionne le mieux, d'autant plus que c'est assez traçable derrière.
Et oui, les cryptos inspirent, voilà, en matière géopolitique. Les cryptos inspirent aussi, et ça c'est fort malheureux, même ici en France, les criminels. Nombreuses agressions d'investisseurs crypto en France depuis le 1er janvier encore, mais les cryptos permettent parfois aussi de remonter la piste. Et ça c'est intéressant, et de démasquer les criminels, Owen. Les cryptos, ce n'est pas de l'anonymat, et on en a une preuve encore récemment.
Tout à fait. Il y a le fondateur d'un organisme qui distribuait et qui permettait un marché libre. Quand on dit un marché libre, c'est un marché qui est non régulé sur le Darknet, donc le Deep Web. Et il s'agissait de la plateforme Dream Market, qui de 2013 à 2019 permettait à n'importe qui d'acheter ou de vendre certaines drogues, toutes drogues d'ailleurs. Cette personne avait cessé son activité et avait conservé, en tout cas le propriétaire avait conservé de la crypto-monnaie obtenue lors de certaines ventes sur ses adresses. La crypto-monnaie étant traçable, elle ne bougeait plus.
elle a été complètement surveillée par différents membres de la communauté, mais également justement les forces de police qui suivaient ces flux, en se disant qu'un jour, le propriétaire chercherait peut-être à récupérer son argent malgré le fait que sa plateforme ne fonctionne plus. 3 ans plus tard, en 2022, ce ne sont pas les modérateurs ou certains membres actifs, mais bel et bien le fondateur de cette plateforme qui a essayé, comme si le temps allait effacer ses traces, d'échanger cette crypto-monnaie contre d'autres devises et en passant justement par un prestataire à Atlanta qui lui permettrait de récupérer des lingots d'or. En l'occurrence, il n'a pas reçu les lingots d'or, il a reçu directement la visite des forces de police. C'est plus de 2 millions de dollars d'or qui ont été saisis dans cette transaction et surtout 12 chefs d'accusation, le faisant encourir jusqu'à 20 ans de prison par chef d'accusation. Certains pensent que la blockchain peut de blanchir de l'argent, beaucoup moins proportionnellement que les flux de paiement traditionnels, et surtout c'est traçable définitivement et ça laisse des traces qui sont indélébiles, donc même un acte qui a été commis il y a 5, 10 ou 15 ans pourra entre guillemets être attribué à son propriétaire le jour où il se manifestera.
Et oui, les cryptos permettent de remonter la piste jusqu'aux criminels. En attendant, en France, les agressions se poursuivent, restent nombreuses. Emmanuel Macron a comparé cette semaine les crypto-monnaies à un Far West pour les criminels et les terroristes, et ministre de l'Intérieur Laurent Nunez à lui parler d'un plan de bataille à venir. Quel est ce plan ?
En ce qui concerne le fameux Far West, je ne sais que dire de plus que ma précédente réponse. Après, j'ai un petit peu de mal quand j'ai une prise de parole de cette ampleur au niveau politique avec des conséquences aussi importantes. Parler de Far West dans les crypto-monnaies en 2015 quand on ne comprend pas ce que c'est, d'accord. Parler de Far West dans les crypto-monnaies quand on sait que toute proportion gardée, 3 à 5 fois moins de blanchiment d'argent sur les crypto-monnaies que sur des flux euros ou dollars parce que c'est traçable et qu'en plus, les crypto-monnaies sont aujourd'hui encadrées. C'est-à-dire que tout institution qui propose des flux en crypto va avoir les mêmes obligations de lutte contre le financement du terrorisme et de lutte contre le blanchiment d'argent avec des KYC complets, une connaissance du client, un scoring des flux de transactions. Enfin, je prends notre modeste exemple, nous, en France, en tant qu'institution avec Meria, on va scorer tout flux qui passe par nous. Et je parle pas simplement des flux de nos clients. Les flux bancaires avec lesquels on travaille, les flux des autres institutions et partenaires avec qui on travaille, tout est scoré et on a une collaboration qui est constante et permanente avec les différentes autorités sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc dire que la crypto-monnaie c'est le Far West alors qu'il y a un cadre aujourd'hui en 2026 avec tout ce qui a été mis en place, ça n'a tout simplement pas de sens. C'est structurellement faux, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il y avait un message politique à faire passer? Je ne sais pas, mais c'est tout simplement une erreur et les faits le prouvent aujourd'hui.
Bon, et Laurent Nunez donc qui promet un plan de bataille quand même contre les crypto-raptes, hein, ces criminels qui viennent enlever comme ça des investisseurs en crypto. Comment vous voyez, est-ce qu'on a des infos sur ce fameux plan de bataille?
C'est surtout de la flexibilité, du renforcement de mise à disposition de ressources, de la communication entre la police et la gendarmerie et une accélération justement d'une cellule qui se concentre sur ce genre de rapt et ce genre de kidnapping. La France est déjà devenu l'épicentre de ce genre de crimes dans le monde. Hein. C'est presque 80% des affaires similaires, des attaques qui ont été faites dans le but de récupérer de la crypto-monnaie sont ciblées sur le territoire français. Cette prise de parole montre toujours un plus gros engagement des forces de police et c'est une très bonne chose. C'était déjà également le cas et les propos de notre ancien ministre de l'Intérieur. Le problème, c'est que la police faisait et fait toujours un travail remarquable pour protéger, les entrepreneurs et les détenteurs de crypto-monnaies. Le vrai souci aujourd'hui, c'est le fait que il y a quand même toujours un intérêt. Il y a beaucoup trop de fuites de données qui permettent de cibler et de trouver ces différents entrepreneurs et personnes détenteurs, utilisateurs de crypto-monnaies. Et pour finir, entre les fuites de données et le fait qu'il y a toujours plus de collecte d'informations sur les gens, notamment DAC8 et les autres normes qui sont en train d'être instaurées pour avoir toujours plus et centraliser au niveau du gouvernement des informations de détenteurs et de particuliers, ben le risque c'est de créer finalement un pot de miel qui vient attirer les criminels et qui vient toujours donner plus de raisons et plus de visibilité sur les gens qui en détiennent. Même si la police fait un travail qui est remarquable et il faut vraiment le souligner, c'est comment ces personnes vont être jugées, comment les personnes qui sont arrêtées seront sanctionnées et seront démotivées de faire ce genre de choses, car aujourd'hui...
Il nous reste 30 secondes. Il y a aussi une responsabilité des plateformes, en l'occurrence, et on voit deux d'entre elles. Là, aux États-Unis, deux grosses plateformes annonçaient une accélération, une augmentation de leurs investissements pour la sécurité de leurs utilisateurs, parce que les plateformes aussi ont une responsabilité dans tout ça.
Tout à fait. La plupart des plateformes ont également à cœur de fournir des ressources pour protéger certains de leurs cadres. Coinbase et Gemini ont communiqué sur l'augmentation des dépenses qu'elles faisaient pour protéger certains de leurs cadres. C'est triste d'en arriver là, mais elles se doivent de le faire quoi qu'il arrive. Et quand on voit la protection de certains, notamment les CEO de Gemini, qui sont les frères Winklevoss, on parle de 13 millions de dollars par an pour sécuriser les cadres, leurs proches et leurs familles. Ça devient un budget qui est complètement démentiel.
Merci à nos pros des cryptos. Ce nouvel épisode disponible tout au long du week-end. Merci à Charles-Aubert Couturier pour KCIS. Merci Charles d'être passé nous voir. Combien, Owen, combien d'abonnés à Asher, votre chaîne YouTube?
J'ai pas regardé depuis la dernière émission.
Oh, je l'avais tellement teasé au début. Ben, ce sera pour la prochaine alors. Voilà. À bientôt, Owen Simonin. Et on salue Vincent Gann aussi qui nous accompagnait, les pros des cryptos. Et chaque lundi, du lundi au jeudi, Sandra Grandouin, vous la retrouverez bien sûr lundi dès 15h pour le club BFM Crypto.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.